Ce soir sur RMC Sport, 5e journée de l'UEFA Champions League avec Manchester City PSG. Préparez-vous pour un duel au sommet.
Ah ouais, imaginez. Les deux équipes de chaque côté qui se regardent droit dans les yeux, prêtes à dégainer.
Ce soir sur RMC Sport, Manchester City PSG à 21h.
Ouais, au coucher du soleil.
Abonnez-vous à 9€ par mois avec la fibre de SFR ou 19€ par mois sur rmcsport.tv.
Offre soumise à condition jusqu'au 29 novembre avec engagement de 12 mois. Fibre de SFR sous réserve d'éligibilité.
Vous écoutez
RMC.
Bon allez, les trois points, les gars, jingle, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, quels sont tes trois points de débat ?
Bah, le résultat de Lille qui, pour moi, équivaut à une mission réussie, parce que la troisième place, c'est fait. Donc maintenant, il y a à bonifier avec la qualification en huitième, qui était à peine croyable au début et qui le devient maintenant quasiment avec un nul au prochain match. Le deuxième point, alors j'ai envie de parler du match et de ce qu'a fait Lille, qui a pas toujours été excellent dans ce match quand même, notamment avec beaucoup de déchets techniques, j'ai trouvé. Mais la victoire, franchement, me satisfait amplement. Mais dans le bilan qu'on va faire sur Lille en Ligue des Champions. Oui, c'est génial qu'ils y arrivent, mais dans ce groupe-là, ils sont juste à leur place. Donc le football français, par le biais de Lille, se remet à sa place, parce que être devant des Autrichiens, ça me paraît être normal. Mais cette normalité, on en était sorti, et Lille nous remet à notre place. Donc ça, c'est bien. Donc ça pourrait être également le troisième point, mais comme il y a plein de matchs qui ont été assez fantastiques ce soir, la raclée de Chelsea contre la Juve et surtout le jeune garçon de Berne contre l'Atalanta qui était complètement dingue comme match, on a beaucoup de choses à évoquer avec nos amis de l'étranger.
Lionel, tes trois points.
Sur le premier point, je vais rejoindre Daniel. Pour moi, je dirais quand même un match réussi pour les Lillois, à l'image de Reinildo que j'ai trouvé excellent. Et pourtant, dans les 20 premières minutes, je t'aurais dit waouh, ça va être compliqué pour les Lillois. Et en fin de compte, c'est passé. Deuxième point, je regrette le manque de public, car Lille est en train d'écrire une belle histoire de son.
Ça, c'est
une
belle page
de son histoire.
C'est un récurrent parce que. Tout
ouais,
ça...
mais c'est dommage. C'est dommage parce que
30€ la place hein, pour les moins chers. Ouais, donc c'est le moyen.
30€, tu vois un match de Champions League.
Quelle était l'affluence au stade ?
38.
38.
38. 38 sur 50. C'est pas assez.
Sûr.
Pour 50, c'est un stade de 50 000.
Pour voir un match de Champions
Alors,
League,
j'allais dire...
un moment très important pour les Lillois.
Moi, je pense.
Attends, juste que tu finisses ton troisième point.
Et puis mon troisième point, malgré tout, je dirais quand même Bourak, c'est dans le mieux. C'est lui, il est à l'origine du but. Techniquement, on peut pas dire.
Là, il y aura à discuter sur le c'est dans le mieux.
Ah, je trouve que déjà au moins il a pesé. Ne serait-ce que sur le but, il s'est battu, il est rentré dedans, il était rageur,
fini tes points, on en reparlera parce que j'ai deux trois remarques sur, j'ai une théorie sur Bourak, je veux ton avis là-dessus.
Après, on en reparlera, mais voilà, je trouve que c'est moins mal.
Sur le stade, effectivement.
Et en fait, il est trop grand. On a fait ça, même à Lyon, c'est trop grand. En fait,
oui, mais Lyon, c'est régulièrement plein quand même.
Oui, mais c'est pas parce que oui, je sais que c'est pas ça le problème. C'est que je pense qu'il faut.
Et à Marseille, t'as un stade de 60 000 qui est plein.
Mais Marseille, je pense que tu peux le faire plus souvent. Je pense que c'est mieux de resserrer des enceintes parce qu'en fait, on a pensé les enceintes en se disant on va louer le stade pour faire d'autres manifestations et tout. Alors Lille le fait, mais Lille, tu te rappelles ce qu'on nous avait vendu?
Un stade multicar.
Ils vont faire stade multi machin, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'y passe réellement quoi,
il se passe que la pelouse est dégueulasse.
Allez, la façon dont c'est géré, on sait très bien que ce genre de partenariat là, c'est pas extraordinaire.
Oui,
Lyon, c'est mieux de ce côté-là. Il y a rien à dire. Je pense que c'est trop grand. Il vaut mieux un 45 000.
C'est le cas de Nice aussi peut-être.
Il vaut mieux un 45 000 ramassé où tu vas sentir l'ambiance et qui va être plein ou à 80% plein.
On rejoint un petit peu ce qu'on disait pour l'équipe de France
et au
stade
autre
de France par rapport au parc. Par
le stade
exemple.
De France, c'est trop grand aussi.
Bah voilà.
C'est trop grand aussi.
On
stade là.
On revient sur
le gigantisme. Là, il y a quelques stades.
Le stade de France, il est aussi architectural. Le stade de France, c'est pas un stade fermé, donc ça pose plein de problèmes.
Et voilà. On fait des stades parfois en réfléchissant pas à toutes ces choses-là parce qu'on veut, leur faire faire trop de choses.
C'est au détriment du vrai
match. Parce qu'on veut leur faire faire trop de choses à ces stades-là, mais après. T'as une ambiance qui se perd, une atmosphère qui empathie.
Ah bah la pelouse de Lille,
est catastrophique.
On a vu à un moment donné.
Moi j'ai vécu un moment extraordinaire avec la pelouse à Lille. Finale de Coupe de la Ligue Strasbourg-Guingamp. Je suis la veille là-bas. On rencontre le directeur du stade qui lui dit : Eh bien la pelouse, est magnifique. On a bossé comme des fous et tout. Et en fait, le mec, ils avaient pas la pelouse. Le lendemain, t'avais les joueurs, ils avaient les shorts blancs, ils étaient en pyjama.
Je me souviens de ça. Oui. Non, mais exact. Non, mais incroyable. Oui, bon, ouais. revenons au match quand même, à la performance. Alors, tiens, on va juste commencer par Bourak parce que c'était l'élément fort l'année dernière.
Tête d'entrée, vas-y.
Non, parce qu'en fait, ok, j'entends bien la bonne volonté, mais le problème c'est que Bourak, il était au-delà de la bonne volonté. Il avait la bonne volonté, il avait l'efficacité, il avait le poids. Moi, je crois, je sais pas comment tu le vois visuellement, et je vais me renseigner. J'ai l'impression qu'il a beaucoup perdu de poids.
Oui. Moi, je pense.
Il a les jambes qui sont plus fines, il a le corps qui est plus fin, le côté taureau qu'il avait et qui était sa qualité. C'est-à-dire, t'avais l'impression qu'il défonçait.
Non, il a peut-être perdu en puissance.
Ben, je pense qu'il a perdu du poids et du muscle.
Il a perdu
le côté taureau, on l'a vu sur le but, parce que c'est lui qui.
C'était pas taureau comme ça.
C'est son côté taureau qui fait
le
but.
C'était taureau.
C'était taureau, j'ai pas le ballon.
Heureusement qu'il le fait.
C'était taureau maladroit. Il avait un côté taureau où il bougeait les défenseurs. Maintenant, je trouve qu'il fait plus mal aux défenseurs. Je pense vraiment qu'il a perdu du poids. Moi, ses jambes me semblent plus fines, son corps est plus fin.
Il a perdu de la vivacité aussi, je trouve. Hein. Mais attention, il prend de l'âge. Hein. Là, les années, c'est plus un an que tu prends. Hein.
Moi, je veux bien.
À cet âge-là, c'est deux ans.
Moi,
très,
j'entends,
très niveau,
j'entends évidemment que l'année dernière, il était en surperf, parce que sinon, toute sa carrière aurait montré autre chose. Ok, à son âge, il était en surperf, il tirait les yeux fermés, ça rentrait.
On est d'accord.
Il est moins en forme, il est tout ce qu'il a énormément joué l'année dernière, même avec la sélection. J'entends tout ça. Mais j'aimerais savoir.
Il voulait partir.
Absolument.
Hein, il y a eu ça.
Mais j'aimerais savoir si physiquement, il n'y a pas eu quelque chose chez lui qui a changé. Je le trouve beaucoup moins puissant et beaucoup moins pesant.
Mais je trouve qu'il fait des efforts, Daniel.
Non, mais
c'est
ça,
pour ça
problème.
Que je dis parce que les
efforts. Il les fait
jusqu'à maintenant.
Mais des fois, il rate des contrôles, des trucs.
Jusqu'à maintenant, ça, il les a toujours ratés.
Ouais, mais là, vraiment, il est maladroit parfois.
Après, sur son jeu aussi a évolué. C'est-à-dire qu'en début de saison, et d'ailleurs, j'en parlais, je pense que Gourvennec, qu'on décrit beaucoup, a été intelligent là-dessus. Je pense qu'il l'a fait exprès, notamment en début de saison, demandait souvent à Bourak de rester.
Il l'a mis au régime.
Non, il demandait à Bourak de rester à la limite du hors-jeu et il demandait à Jonathan David de dézoner, de revenir jouer dans le milieu de terrain.
Et tu sais,
là, il a inversé les rôles.
Un joker de Bourak.
Peut-être, oui, bah, condition que Bourak.
Une demi-heure.
Mais là, ce qu'a fait Gourvennec, c'est qu'il a inverser les rôles, c'est-à-dire qu'il demande à Jonathan David de rester devant et Bourak de revenir dans le milieu, ce qui lui permet quelque chose de très important et qui a évolué dans le jeu de Bourak, c'est de ne plus être hors-jeu. Il n'a pas été une seule fois hors-jeu.
Mais moi, je préférais qu'il soit hors-jeu qu'il étale sa puissance comme il faisait que là.
Non. D'ailleurs, le jeu de Lille,
il y a peut-être juste mieux à trouver entre tout le temps hors-jeu comme c'était le cas.
Toutes les contre-attaques, elles étaient mortes parce que de toute façon, soit tu jouais sur lui, il était hors-jeu, soit tu jouais pas sur lui et donc t'attaquais tout le temps avec un de moins.
Il était meilleur.
Non, là, en début de saison, il était nul.
Non, mais toi, tu parlais
du début de saison.
Oui.
Non, l'année dernière était beaucoup moins hors jeu que du début de saison.
Ça lui arrivait aussi parce qu'il était, il était explosif.
Là, c'était systématique. Il annihilait toutes les contre-attaques.
Moi, je te dis, moins de puissance, moins de force.
Et Gourvennec, je pense qu'il a pensé à ça. Et donc, il a inversé les deux pointes. Il demande à Bourak de revenir, de jouer dans le milieu, de dézoner. Et ce qui fait que les attaques, au moins, il s'en sert d'appui.
Mais moi, aujourd'hui, avec l'effectif qu'il a, qu'il le fasse tourner. Alors après, c'est sûr que peut-être il aura lui du mal à l'accepter.
Il faut qu'il accepte.
Mais une dernière.
Ceci dit, on l'a vu
une dernière demi-heure.
Il était en rage contre lui-même. Il a des contrôles, des machins. Oui. Il s'en veut.
Non,
il
mais on voit qu'il est en perte de confiance. Il a perdu un peu ce statut de leader.
Je vous propose qu'on ferme la parenthèse Bourak ou le dossier Bourak. Il y a quand même un truc qu'on a peut-être pas assez souligné dans ce qu'a fait Gourvennec, et c'était pareil à Séville. Il met d'entrée de jeu
5
offensifs
avec Sanchez qui est dans le milieu.
Exactement. Que Sanchez, bon, tu vas pas
moi
dire
que c'est un
6.
Je trouve que ça a déjoué, franchement.
Mais bon, il y a quand même un truc, philosophiquement.
J'ai l'impression qu'il y a deux semaines, on a exactement eu le même débat. Lille a toujours joué comme ça. Ils ont toujours joué avec 4 mecs devant.
Non, parfois il y avait.
Sanchez.
Tu aurais pu avoir Onana, par exemple.
Dis-moi, Sanchez, on va refaire exactement le même débat qu'après Séville. Sanchez, il est toujours aligné de cette façon et c'est comme ça qu'il est bon, c'est-à-dire à 2. Et encore aujourd'hui, il n'a pas été très bon. Mais c'est
Sanchez
comme ça qu'il
est des fois à droite, Daniel.
Et c'est pas bon. C'est pas bon quand il le met à droite. Moi, je l'aime pas. Moi, je préfère qu'il soit mis comme ça. Et l'idée que vous défendez, mais en fait, Lille, c'est toujours deux attaquants, éventuellement un mec comme Yazice qui joue un peu plus 10 derrière l'attaquant, mais il y a toujours sur les côtés deux mecs très offensifs. Si c'est pas Ouéa, c'est Ikoné.
Oui, mais
si
parfois
Bamba.
Parfois t'as André Onana, André Sheka. Tu vois, là t'avais juste le seul Sheka devant la défense.
Sanchez, pour moi, ça reste un milieu de terrain, c'est pas un attaquant, c'est pas un 10, c'est pas un milieu offensif.
Mais c'est pas un 6 non plus, tu vois.
Le problème dans l'équilibre,
c'est plus un 6 moderne. Si.
Le problème dans l'équilibre là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une contre-attaque à faire pour les Lillois, notamment des transitions offensives, ça voulait dire que Sanchez, lui, de toute façon, allait vers l'avant. Sheka est resté, il a eu un jeu dans l'ombre incroyable. C'était tout le temps sur l'équilibre. Mais par contre, lorsqu'il y avait des contre-attaques des joueurs de Salzbourg, Sheka, il voyait arriver. D'ailleurs, c'est les 30 premières minutes jusqu'au but, ça a été un no man's land dans le milieu de terrain lillois. Les Lillois n'arrivaient pas. Et Sheka était tout seul. Il voyait tout le temps arriver du monde. Et donc, Sanchez, il a fait les efforts. Attention, il a couru. Je serais curieux de savoir le nombre de kilomètres. J'ai au moins 12 kilomètres dans son match. Il a fait les efforts. Mais je trouve que c'est dommage de l'utiliser si bas. Parce que ce qu'il fait à 30 mètres des buts de Lille, je préférerais qu'il efface à 30 mètres tous ces efforts-là, son adresse technique, son habileté technique et sa distribution de balles. Je préférerais qu'il le fasse à 30 mètres des buts adverses, personnellement.